Bonjour la Méditerranée, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Cantara, votre magazine de l'actualité en Méditerranée, présenté cette semaine par Pierre-Louis Alessandri de RCFM et Mayada Sili de RTCI. Bonjour Pierre-Louis.
Bonjour Mayada et bonjour à nos auditeurs qui chaque semaine nous accompagnent dans ce beau voyage de Cantara en Méditerranée.
Et tout de suite le sommaire de notre émission Pierre-Louis. C'est en Espagne que nous irons pour commencer. Imane Wanzar va nous parler cette semaine des débats suscités par le référendum italien en Espagne. Nous irons ensuite en Corse. Pierre-Louis, tu vas nous parler de la grève des femmes salariées en France qui a été organisée le 7 novembre dernier pour dénoncer les inégalités salariales hommes-femmes.
Et puis retour également dans ce numéro sur la conférence internationale d'appui au développement économique, social et durable de la Tunisie. Tunisie 2020, une conférence qui a enregistré la participation de plus de 4500 personnes. En Algérie, il sera question de la réforme du système éducatif qui fait toujours débat. Les changements suscitent des résistances et forcément des polémiques.
Nadir Abulkhoutout nous fera découvrir aujourd'hui l'ergonomie, une nouvelle médecine du travail. Et enfin, Dina Abdelmajid nous présentera le 21e festival de la beauté du cheval arabe qui a eu lieu le mois dernier au Caire.
Avant de démarrer en musique notre rendez-vous, nous rappelons que Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Bouadma, Radio Exterior de España, Imane Wanzar, Chaîne Inter Rabat, Nadira Belroutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Mayada Sili, Radio Le Caire, Dina Abdelmajid, et puis RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri. Tout commence par des chansons et notre première chanson est du groupe Ensemble contre le Sida qui interprète Noël Ensemble, un ensemble qui est né en 1992 à l'initiative du chanteur Étienne Dao et qui regroupe aujourd'hui près d'une centaine d'artistes qui s'engagent donc dans la lutte contre le Sida. Noël Ensemble.
Noël Ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble, passer Noël ensemble,
Noël ensemble,
oublier les frontières,
dépasser nos querelles,
ce soir nous rassemble,
refuser d'être seul,
revenir à l'enfance.
Et pouvoir rêver
d'un sapin qui touche le ciel,
nous former une guirlande,
et quand tout est qu'étincelle,
qu'une étoile nous attend.
Noël.
Noël ensemble, c'est ce qu'on souhaite à toutes les familles, à tous nos auditeurs de passer Noël avec en famille ou avec les personnes qu'ils aiment. Le 12 décembre, ça sera aussi la fête du Maulid. On en profite pour souhaiter bonne fête à tous.
Première destination, l'Espagne, où le référendum italien a suscité des débats. Un référendum est toujours une option risquée. Un référendum est une arme chargée par le diable. Ces phrases tournent au leitmotiv aussi bien dans les tablès rines que dans les articles de journaux, des propos lourds de sens, dits ou écrits par des journalistes, une manière de dire que les citoyens votent mal, alors il faut décider sans eux. Le référendum italien n'a pas échappé à cette grille de lecture. Les analyses portant sur les motivations réelles des promoteurs du référendum, contrôle accru des institutions, primauté de l'exécutif, volonté de virage au centre, eh bien elles sont passer au second plan, d'autant plus qu'une modification de la constitution espagnole est plus que probable. Mais sera-t-elle entérinée par référendum ? Réponse de Imane Wanzar.
La constitution espagnole post-franquiste a
40 ans. Elle a célébré cet anniversaire historique hier, 6 décembre. 40 ans est plus que l'âge de raison, mais c'est aussi un âge où l'on se repense, l'âge des bilans et des possibles retouches, voire des réformes. Un débat très présent hier parmi la classe politique espagnole. Nous écoutons le chef du gouvernement, Mariano Rajoy.
Evidentemente se puede hablar, pero creo que debemos ser prudentes y creo que debemos saber claramente qué es lo que queremos modificar y qué es lo que no queremos modificar. Porque hay algunas operaciones en la vida de las cuales conviene conocer el principio y también el final. Y sin duda alguna una de ellas es esta. Esto no es un asunto para ocurrencias, ni para historias, ni para frivolizar. Es un asunto, como se hizo en el 78, para hacer las cosas muy bien.
Il est évident, dit le chef du gouvernement, que l'on peut parler, mais je crois que l'on doit être prudent et je crois que nous devons savoir clairement ce que nous voulons modifier et ce que nous ne voulons pas modifier, parce qu'il y a des opérations dans la vie pour lesquelles il convient connaître par avance le commencement et l'aboutissement. Il ne s'agit pas d'un sujet pour des trouvailles, ou pour des histoires, ou encore pour des frivolités. Si des questions comme le fédéralisme promu par le Parti socialiste ouvrier espagnol ou le droit à décider promu par certains partis nationalistes aussi bien catalans que basques et soutenus par Podemos ou encore l'État multinational promu par Podemos soulèvent beaucoup de débats, voire des controverses, la question de l'égalité homme-femme au sommet de l'État et donc l'abolition de la loi Salic qui donne la primauté à l'homme sur la femme pour l'ascension au trône, semble être admise par tous. Actuellement, au Parlement, deux partis défendent ouvertement la réforme de la Constitution, le Parti socialiste et Ciudadanos, alors que Izquierda Unida Podemos serait plutôt favorable à un nouveau processus constituant qui remplacerait celui de 1978. En face, le Parti populaire qui appelle à la prudence, au consensus et au dire de l'opposition à l'immobilisme. L'eurodéputé de Podemos, Tania González, invite à se centrer sur ce que prétendait Matteo Renzi avec cette réforme.
L'objectif de cette réforme n'était pas vraiment celui que Renzi alléguait de fortalecer la gouvernabilité, simplifiant l'État, mais que era una reforma constitucional que de alguna manera lo que hacía era dificultar el control democrático y la participación popular y concentrar más poder en el Ejecutivo.
L'objectif, nous dit Tania González, l'objectif de cette réforme n'était pas réellement celui annoncé par Renzi, renforcer la gouvernabilité en simplifiant l'État. C'était une réforme institutionnelle qui, d'une certaine manière, visait à compliquer le contrôle démocratique et la participation populaire et à concentrer davantage de pouvoir aux mains de l'exécutif. Le programme matinal de la Radio Nationale d'Espagne a rencontré le président émérite du tribunal constitutionnel italien, Antonio Baldassarre. Concernant le parallèle fait peut-être un peu trop rapidement entre ce référendum et le Brexit, Antonio Baldassarre se montre catégorique. Ce vote est une question interne.
Yo no creo porque el tema de la Europa fue elevado de Renzi nella lucha electoral pero no por las oposiciones de Renzi.
La question de l'Europe a été évoquée par le propre Renzi dans le courant de la bataille électorale, mais pas par l'opposition à Renzi.
Et c'était le sujet d'Iman Wanzar pour cette semaine. C'est vrai que les référendums, ça suscite toujours des débats et des réactions un peu partout. Est-ce qu'en France, en Corse, il y a eu des débats après ce référendum italien, Pierre-Louis ?
Ah bien sûr, on est très proche de l'Italie, oui. Et donc tout ce qui concerne l'Italie est suivi avec beaucoup d'attention en Corse, puisque nous-mêmes, nous avons avec la RAI une émission méditerranéenne qui s'appelle Méditerraille, donc on a parlé de ce référendum. Mais les référendums, c'est vrai, il faut faire très attention. Souvenons-nous, Charles de Gaulle, en 1969, il était tombé sur un référendum de réforme de la Constitution et de réforme du Sénat. Donc l'histoire, il faudrait la lire avant d'engager sa propre histoire.
Absolument. Alors une chanson espagnole avant d'aller en Corse. Iman Wanzar nous propose cette semaine Rupert Ortica. Il est l'un des grands rénovateurs de la chanson basque, un artiste qui ne se produit pas souvent mais qui a un public des plus connaisseurs et des plus fidèles. Nous l'écoutons ici dans Norda.
Aurreko zure instantea benor da Biotzean dara matzuna nor da Zure begietan gorderik nor da Nor da gogoan daukazuna nor da
Et notre deuxième sujet aujourd'hui, Pierre-Louis, le combat pour l'égalité homme-femme. Ce combat est encore long et difficile, même au sein de pays démocratiquement avancés aujourd'hui comme la France. Le 7 novembre dernier, les femmes salariées de France étaient invitées à cesser le travail à 16h34,7 secondes, très précisément. À l'appel du collectif Les Glorieuses, cette grève a été organisée pour dénoncer les inégalités salariales homme-femme. On écoute ton reportage, Pierre-Louis Alessandri.
Cette heure a été choisie par le collectif Les Glorieuses à la suite des chiffres donnés par Eurostat, l'organisme statistique de l'Union européenne. Chaque jour, à partir de 16h34,7 secondes, les femmes travaillent gratuitement et leurs salaires sont ainsi 23,5% moins élevés que ceux des hommes. Les femmes françaises travaillent gratuitement durant 77 jours par an par rapport aux hommes. Et dans ces inégalités, la Corse est aussi au-dessus de la moyenne nationale. Elisabeth Salvarese est journaliste retraitée. C'est une féministe engagée. Elle a participé en 1970 à la création du MLF, le mouvement de libération de la femme. Elle nous donne son sentiment.
Étant donné ce qu'elle gagne, elle devrait s'arrêter à cette heure-là pour la simple raison que tout le travail qu'elles vont faire entre cette heure-là et la fin de l'année est en fait gratuit. Elles ne sont pas payées pour tout le reste de l'année par rapport aux hommes. Pour ce qui est de la différence de salaire, de l'inégalité salariale à proprement parler, l'écart est moindre en Corse. Elles sont par contre beaucoup plus nombreuses à être au chômage. La disparité de salaire, elle est quand ils ont donc du travail, quand femmes et hommes ont du travail et que c'est le même travail, elle est de 20 000 et quelques euros par an pour les femmes et de 23 000 et quelques pour les hommes. Donc ce n'est pas une énorme disparité, mais en fait la vérité c'est que par ailleurs elles sont beaucoup à temps partiel et que par ailleurs celles qui ne sont pas dans la fonction publique sont aussi mal payées. Dans les emplois qui ne sont pas de la fonction publique, on retrouverait la même disparité en fait. La fonction publique est protectrice pour l'emploi des femmes et en Corse la fonction publique a une grande importance. Plus les salaires s'élèvent et plus la disparité est grande.
La disparité salariale n'est pas tout. Les inégalités hommes-femmes dans le domaine professionnel s'étendent par exemple aux contrats. Les femmes sont plus nombreuses dans des contrats à temps partiel, aux promotions, et même quand elles atteignent un poste de cadre, les disparités ne disparaissent pas, mais s'aggravent. C'est une situation discriminatoire et un combat difficile.
À qualification égale ou supérieure des femmes, elles sont moins nommées à des postes de responsabilité. Et donc, dès qu'on gagne, on y gagne plus d'argent ou qu'on y a plus de pouvoir, elles sont, disons, beaucoup moins présentes. On les imagine toujours plutôt en infirmière qu'en chef d'entreprise ou en sportive ou que sais-je, je veux dire. Bon, c'est vrai en règle générale, mais ça l'est encore un peu plus encore. C'est un combat très difficile puisque vous êtes là une personne. Donc, vous avez en face de vous donc, un patronat qui ne va évidemment pas vous dire qu'il vous emploie moins parce que vous êtes une femme. Donc, c'est en croisant les différents paramètres qu'on peut s'en rendre compte. Et puis, surtout, ce qu'il y a, c'est que dans l'ensemble des institutions du travail, que ce soit les syndicats, les prud'hommes, etc., c'est rarement pris en compte quand il s'agit de discrimination à l'emploi. Alors là, c'est comment dirais-je, le parcours de la combattante.
Le parcours de la combattante, y compris même pour sensibiliser les syndicats ou les prud'hommes, tribunaux qui ont à connaître du droit du travail. Il est parfois difficile de prouver cette discrimination et de convaincre. Alors, comment faire? À qui s'adresser?
Vous devez pouvoir en référer déjà à un syndicat, si vous êtes syndiqué. Et puis, pour l'instant, je dois vous dire que c'est quand même surtout des déclarations d'intention. On n'a pas vu beaucoup d'effets. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment des grandes avancées dans ce domaine. Quand une femme a un problème, par exemple, d'emploi, elle va se retrouver en face d'hommes, pour la plupart, qui ne sont pas forcément très attentifs à ce qu'elle a à dire.
Un chiffre effarant. Il faudra 170 ans pour réduire l'écart, c'est-à-dire que les femmes devront attendre jusqu'en 2180. Et puis, au sein des institutions démocratiques, le machisme est aussi présent. La ministre des Droits des Femmes, évoquant les inégalités professionnelles femmes-hommes et les mesures que comptait prendre le gouvernement, a été huée par les députés de droite à l'Assemblée nationale française.
Et le combat pour l'égalité est toujours d'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire, Pierre-Louis.
Et oui, la parité de la femme, et il y a eu des lois qui l'ont organisée en France, notamment en politique, bien souvent la parité, c'est pas l'égalité.
Absolument.
Et on la voit en matière de profession, les femmes sont derrière les hommes. Et les animatrices de notre radio nous faisaient remarquer hier que leur avancement était beaucoup plus lent que celui, leur avancement de carrière bien sûr, était beaucoup plus lent que celui des hommes.
Mmh. Oui, en tout cas avec cette grève, on se rend compte effectivement que ce problème est aussi mondial, Pierre-Louis. Peut-être à l'exception de quelques pays nordiques où il y a une égalité presque parfaite. Toutes les femmes dans tous les pays vivent pratiquement les mêmes problèmes, la même discrimination. Alors en Tunisie, c'est vrai que le statut de la femme, il est souvent salué, présenté comme étant le plus avancé du monde arabe grâce au code du statut personnel qui a été promulgué donc au lendemain de l'indépendance, qui était avant-gardiste, révolutionnaire et tout. Mais on oublie que ce code n'a pas évolué avec le temps, avec l'évolution avec les générations et tout. Donc aujourd'hui, si on parle l'égalité, je pense que en matière d'égalité, par exemple, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, c'est vrai que les ratios sont non seulement au-delà de la moyenne mondiale, mais peut-être proches de l'égalité parfaite. Mais au niveau social, les femmes rurales, par exemple, restent pour la plupart exclues des politiques publiques. L'égalité, elle est relative dans la participation à la vie économique, la vie politique, même si on est quand même fiers d'avoir aujourd'hui un gouvernement avec 8 femmes, ministres et secrétaires d'État. Je crois que l'égalité salariale, elle n'est pas parfaite non plus en Tunisie. Elle y est peut-être dans la fonction publique, mais il y a des secteurs où il y a toujours une discrimination en matière de rémunération entre les deux sexes.
C'est vrai que la fonction publique, effectivement, équilibre davantage, mais attention aux effets vitrines. Ce n'est pas parce qu'on a X femmes dans un gouvernement qu'on a obligatoirement l'égalité. Donc, le combat continue pour les femmes.
Notre prochaine destination, la Tunisie. Il sera question de la conférence internationale Tunisie 2020, mais juste avant, une chanson tunisienne, elle est signée Amel Sherif, Baba Bahri.
Oh, Baba.
Alors après la belle voix d'Amal Cherif, on reste en Tunisie. 5 ans après la révolution et la transition politique, la Tunisie tente de réussir sa transition économique et vient d'organiser la conférence internationale d'appui au développement Tunisie 2020. 4500, dont 1500 partenaires économiques de plusieurs pays, ont participé à cette conférence dont l'objectif est de convaincre les investisseurs de venir ou de revenir en Tunisie.
La Tunisie a tenu les 29 et 30 novembre dernier la conférence internationale sur l'investissement Tunisie 2020. La conférence a réuni des décideurs politiques internationaux, des investisseurs et des partenaires de la Tunisie. Lancée en avril 2016, Tunisie 2020 est une conférence internationale d'appui au développement économique, social et durable de la Tunisie, en allusion à la période d'exécution du plan de développement 2016-2020. Son objectif est donc de relancer la confiance en la Tunisie et en un climat des affaires optimal. Fadl Abdelkafi, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale en Tunisie. L'objectif de la conférence est tout d'abord de redorer l'image de la Tunisie en Méditerranée. C'est le plus important. Les 5 années de transition démocratique ont été des années difficiles. Dans ce qu'on appelle le printemps arabe, la Tunisie est le seul pays à avoir franchi cette étape difficile. Mais durant ces 5 années, la Tunisie a été totalement absente sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement d'Union nationale a voulu restaurer l'image de la Tunisie comme un pays qui attire les investissements étrangers dans la rive sud de la Méditerranée. La valeur des investissements directs étrangers en Tunisie a baissé de 7,6% en 2016 par rapport à 2010. Le taux de chômage a atteint 15,5%. Le taux d'inflation est estimé à 3,9%. C'est une période délicate que la Tunisie est en train de vivre. L'économie, les investissements ont besoin de préalables. Ces préalables, comme vous le savez, sont la paix sociale, la stabilité politique et la sécurité. Nous avons bien avancé en ce qui concerne ces 3 points et nous poursuivons sur cette lancée. On me pose toujours des questions sur la paix sociale. C'est vrai que les négociations sont difficiles et parfois complexes, mais il y a une paix sociale en Tunisie et nous allons continuer jusqu'à atteindre nos objectifs. La Tunisie a vécu 5 ans sans phosphate, 5 ans dans une crise du secteur du tourisme, ajoute le ministre du Développement et de la Coopération internationale. 5 ans pendant lesquels les investissements ont baissé, 5 ans pendant lesquels l'État tunisien a fait ce qu'il devait faire. Il a augmenté le budget de l'État de 18,6 milliards de dinars à peu près 32 milliards de dinars. Le deuxième volet du budget de l'État, ce sont les projets et les investissements publics, et comme vous le voyez, ça avance. Nous avons fait ce que nous avons pu ces 5 dernières années, mais vous savez les conséquences. L'endettement a augmenté, le déficit s'est détérioré, la masse salariale est passée de 6,4 milliards de dinars à 13,2 milliards de dinars. Tout cela complique la marge de manœuvre de l'État, et notre conviction aujourd'hui, c'est que la solution, ce sont les investissements, d'abord internes et ensuite étrangers.
أصبحت صعبة ودقيقة ولهذا يعني الحل الوحيد بالنسبة لبلادنا وإحنا كنا أمل استثمار إن شاء الله يرجع الاستثمار أولا الداخلي وكذلك الاستثمار الخارجي.
Plusieurs réformes ont été engagées en Tunisie et le cadre réglementaire et juridique est en train de changer, dont une loi de l'investissement qui a été adoptée par l'Assemblée des représentants du peuple pour favoriser l'attraction davantage d'investissements directs étrangers. De grands pas ont été franchis également pour le rétablissement de la stabilité sociale, politique et sécuritaire. Le principal message retenu d'ailleurs tout au long de la conférence a été « La Tunisie est de retour ». Les projets qui ont été présentés à Tunisie 2020 ont touché presque à tous les secteurs d'activité. Des conventions et des partenariats signés, des promesses de projets et d'investissements annoncées. Pendant 2 jours, la Tunisie a été sous les projecteurs du monde entier et a réussi à véhiculer une image positive de son processus de transition. L'espoir des Tunisiens est aujourd'hui de voir se réaliser les promesses et les projets avancés lors de cet événement.
Mayada, donc la Tunisie qui veut repartir sur son plan économique, et c'est pas facile. Un des points les plus importants de l'économie tunisienne, c'est le tourisme. Et c'est vrai que l'insécurité fait parfois défaut à l'économie d'un pays, quel qu'il soit, et notamment de la Tunisie.
Absolument. La Tunisie, enfin le secteur du tourisme, l'économie tout entière tunisienne a payé le prix de cette transition qu'a connue la Tunisie depuis 2011. Donc aujourd'hui, avec cette conférence et avec tous les efforts qu'essaient justement de mener les Tunisiens, c'est de revaloriser les atouts de la Tunisie, son emplacement, son histoire, sa culture, mais surtout ses ressources humaines qui sont vraiment le principal atout, donc une jeunesse dynamique, enthousiaste, éduquée, etc. C'est très important. Mais alors, il faut prendre aussi tous ces chiffres qu'on a vu dans cette conférence avec beaucoup de prudence, j'ai envie de dire. C'est vrai, les chiffres sont énormes, mais ça ne fait en fait aussi qu'alourdir les dettes de la Tunisie. C'est vrai qu'il y a des facilités dans certaines dettes, n'empêche que ces prêts devront être remboursés dans des échéances bien déterminées. Et donc aujourd'hui, les Tunisiens, j'espère qu'ils ont pris conscience de l'importance de travailler. Travailler, c'est vraiment le mot d'ordre.
Et puis je note un point important sur les 4500 participants, 1500 partenaires économiques de plusieurs pays, ce qui effectivement est une marque malgré tout de confiance.
Oui, absolument.
Voilà, et après la Tunisie, eh ben Mayada, on va à côté en Algérie.
En Algérie, où la réforme du système éducatif fait toujours débat. La ministre de l'Éducation nationale se donne jusqu'en 2021 pour la mise en œuvre totale de la refonte du système, des changements qui suscitent des résistances et forcément des polémiques. La dernière en date, la révision du calendrier de l'épreuve du baccalauréat. Linda Bouadma.
On accuse la ministre en effet, Nouria Ben Rebrit, de faire marche arrière concernant son projet de réforme du baccalauréat. Cet été, Ben Rebrit avait déclaré qu'un consensus était établi sur la réduction de la durée de l'examen du bac de 5 à 3 jours. Cette semaine, nouvelle déclaration annonçant le maintien de l'ancien calendrier. Nouria Ben Rebrit s'est expliquée sur les ondes de la chaîne 3 sur ce changement.
On maintient l'idée de la progressivité et vous savez bien que les changements, quelle que soit la nature et la portée du changement, ça provoque foncièrement des résistances. On distingue entre le processus, donc de la refonte dans laquelle on s'est engagé, et le réaménagement du calendrier. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un réaménagement du calendrier qui ne donne en fait que du mot à l'élève, ça permet de le rassurer. Et si on peut le rassurer de cette façon, par le réaménagement du calendrier, nous l'avons fait. Nous avons pris en ligne de compte donc le stress et les angoisses des élèves que j'ai rencontrés directement à l'occasion d'explications que les inspecteurs donnaient aux élèves, et l'immensité de l'angoisse valait en fait cet effort.
Principal motif du retour à l'ancien calendrier est le stress des candidats, explique la ministre de l'Éducation. Côté syndicat, partenaire dans les réformes, ce recul est la faute d'une politique irréfléchie et de décisions prises dans la précipitation. Voici la réponse de Nouria Ben Rebrit à ces accusations.
Je dis que c'est excessif et injuste parce qu'ils ont participé toute l'année dernière à la présentation des propositions, et nous avons beaucoup travaillé avec nos conseillers pour leur faire justement des présentations d'hypothèses multiples et variées, tout en leur donnant les expériences internationales. On a un seul syndicat qui n'avait pas du tout participé de bout en bout et qui parle de précipitation. C'est peut-être un peu malvenu, mais je peux vous dire que la refonte du baccalauréat ne constitue pas une priorité stratégique dans la politique que nous sommes en train de mettre aujourd'hui en œuvre.
La refonte de l'examen du bac n'est donc pas une priorité stratégique pour le ministère de l'Éducation. La réforme concerne essentiellement la refonte des programmes pédagogiques, à commencer par le primaire. La ministre de l'Éducation.
On a considéré prioritaire les changements au niveau du primaire, particulièrement la refonte pédagogique. Et dans la refonte pédagogique, c'est toute la problématique. Un, du contenu des enseignements, avec le changement du curriculum, changement au niveau du système d'évaluation. Le troisième élément, les nouveaux manuels scolaires et la formation qui accompagnent tout le processus de changement. Sur quoi la refonte pédagogique est construite aujourd'hui au niveau du primaire, et ce n'est pas sûr qu'on réussisse immédiatement, c'est la réduction de la mémorisation. Aujourd'hui, au niveau du primaire, tout est construit sur la restitution de cette mémoire immédiate et qu'il faut laisser le champ libre à l'analyse, à la production au niveau de l'enfant et à son intelligence.
L'apprentissage des langues, autre axe prioritaire de la réforme pédagogique selon Nouria Benrabrit.
Ce qu'on est en train de faire, et ça c'est une priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'améliorer l'apprentissage de la langue une, qui est la langue d'enseignement et qui est l'arabe. Nous sommes en train de faire un effort gigantesque et nous sommes en train de faire un montage d'une stratégie nationale de remédiation pédagogique qui, elle, s'appuie sur l'analyse des fautes qui sont commises et qui sont récurrentes au niveau de la langue arabe. Alors, notre ambition, parce qu'il faut être ambitieux dans la vie, notre ambition, c'est de former des élèves trilingues, maîtrisant évidemment la langue arabe en premier lieu, mais maîtrisant également le français et l'anglais.
La réforme de l'enseignement en Algérie se fait progressivement en tenant compte des résistances qu'elle suscite.
Alors, les réformes du système éducatif, de l'enseignement, ici comme ailleurs, ça suscite toujours des réactions. Alors, qu'en est-il en France, en Corse, Pierre-Louis?
Ça suscite, en Corse et sur le continent, ça suscite des réactions, des oppositions. La réforme des collèges, réforme des rythmes scolaires, c'est peut-être aussi dans le passif du bilan du président Hollande, parce que notamment la réforme du collège n'a pas été très bien accueilli. Donc il y a une récurrence dans l'opposition au système scolaire. Et moi, je crois que dans la véritable réforme et proposition de réforme que l'on devrait faire, c'est permettre, dans les lois qui arrivent, aux fils des plus précaires, aux enfants des plus précaires, que ce soit dans tous les pays, des pays évolués comme la France ou d'autres, de pouvoir accéder à l'enseignement et surtout à l'enseignement supérieur. Ça, c'est les réformes qui s'imposent. Et pour l'instant, même en France, on remarque que la part, le pourcentage des filles de familles précaires, ce pourcentage-là a diminué par rapport à l'accès, notamment aux études supérieures.
Une pause musicale marocaine avant de passer à notre prochain sujet.
كل يوم نعيش حكاية اللي ترايحتي ما كان في بال شفتي بعينيك نهاية دنيا رحال وحوال وفي كل يوم نعيش حكاية اللي ترايحتي ما كان في بال شفتي بعينيك نهاية
Et on reste au Maroc avec l'ergonomie, qui est une nouvelle médecine du travail, mais elle est plus que ça, elle fait appel aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux ressources humaines, psychologues et autres, et qui, dans le cadre d'une cellule de travail au sein d'une entreprise ou une administration, ont pour tâche de faciliter les conditions de travail aux salariés et employés. Alors, l'objectif est d'humaniser le travail. Nadira Belroutout, munie de sa béquille, on lui souhaite un prompt rétablissement puisqu'elle a le pied dans le plâtre, et du micro de Kantara, a assisté au colloque du réseau Sud-Nord de l'ergonomie pour nous éclairer sur cette nouvelle spécialité.
On apprend tous les jours et aujourd'hui, j'ai appris l'existence de l'ergonomie. C'est une nouvelle science très jeune dans nos pays du Maghreb. C'est une spécialité pluridisciplinaire qui permet au sein d'une entreprise d'améliorer les conditions de travail pour les employés. C'est une sorte de médecine de travail avec plusieurs branches. Vous comprendrez mieux avec le docteur Abdelhamid Khadri. Il est membre de l'association marocaine d'ergonomie.
Elle permet de mettre en pratique les concepts de l'adaptation du travail à l'homme. Et l'un des axes les plus utilisés, les plus demandés, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux englobent l'ensemble de choses qui commence par le stress, le harcèlement moral ou autre, et par, disons, la charge de travail, la charge mentale de travail. Et ça aussi, c'est quelque chose dans laquelle l'ergonomie peut aider, parce que les solutions sont souvent participatives. Une intervention ergonomique, ce n'est pas une intervention que l'ergonome fait tout seul. Il le fait en concertation avec les gens qui travaillent. Il est le trait d'union entre l'employeur et les salariés. Il fait intervenir tous les gens qui sont concernés par cette problématique et il a une charte, il a une déontologie qui fait qu'il doit être, c'est le principe d'équidistance, il doit être ni juge ni parti. Il doit être au milieu et essayer un petit peu d'aller vers ce qui est bon pour l'entreprise en même temps en alliant l'adhésion des salariés et des employeurs.
Santé, sécurité, performance du travail, l'ergonomie est un label, une obligation dans un contexte de mondialisation, comme nous l'explique Tawfiq Khalfallah. Il est le président de l'Association tunisienne d'ergonomie.
La Tunisie, on a créé notre société tunisienne d'ergonomie qui fédère un peu les ergonomes chercheurs, consultants, praticiens, qui développent les compétences en matière de sciences du travail. En Algérie aussi, il y a un collègue algérien ici, il y a beaucoup d'Algériens qui ont fait de l'ergonomie, mais ils ne sont pas encore entourés autour d'une société savante, mais c'est en cours. Et puis le Maroc, ça fait plus que 3 années, ils ont déposé leur demande et c'était une vraie coopération. Ils ont créé leur société marocaine d'ergonomie qui est une société savante, ça fait 2 années. Et maintenant, on est à la 3e rencontre internationale sud-sud-nord en ergonomie. Et c'est très important.
L'ergonomie est bien sûr en avance dans des pays comme la France, représentée ici à Rabat à cette rencontre par Agnès Cuvelier de l'Institut National de Sécurité et de Recherche de Paris.
On perçoit l'intérêt de l'ergonomie non seulement pour adapter des postes de travail en fonction de risques physiques, mais aussi pour transformer les organisations du travail et pour aborder d'autres risques chimiques, mécaniques, liés aux accidents.
Et jusqu'à quelle mesure cette amélioration des conditions de travail par rapport à la question du genre, hommes et femmes?
On sait que souvent les hommes et les femmes ne sont pas occupés aux mêmes emplois. Par exemple, dans une entreprise dans laquelle on va faire de l'assemblage de pièces mécaniques, on trouvera plus souvent les hommes en début de chaîne et en fin de chaîne. En début de chaîne pour faire de la manutention lourde et apporter des approvisionnements pour les personnes qui seront sur la chaîne. Et au milieu de la chaîne, plutôt des femmes qui feront des petits travaux, enfin des travaux d'assemblage fin et précis, et en fin de chaîne, des hommes à nouveau pour reconditionner, les emmener vers le client. Donc le type de contrainte, souvent, n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, parce qu'on les affecte à des activités de travail qui sont différentes en fonction de leur genre.
Alors voilà, l'ergonomie, c'est important, et le dépassement de l'ergonomie, la continuation de l'ergonomie, c'est aussi l'ergothérapie pour les personnes handicapées, et l'ergothérapie permet aussi de pouvoir mieux appréhender pour les personnes qui ont des problèmes physiques, et notamment d'appréhension des objets, l'ergothérapie permet de leur réapprendre à maîtriser l'environnement. C'est quand même important, Mayada.
Absolument. Allez, nous terminons notre voyage en Égypte. Le 21e festival de la beauté du cheval arabe a eu lieu du 17 au 20 novembre au Caire. Un spectacle équestre des plus beaux pur sang du monde. Plus de 300 chevaux ont mis en scène des numéros de voltige, de dressage, de carrousel sur des thèmes très variés. Esthétique, résistant et endurant, le cheval arabe présente de nombreuses qualités qui ont été jugées et notées par des professionnels. À l'occasion de ce festival, Mouna Farid a rencontré le lieutenant-colonel Faisal Bahir qui nous présente les spécificités du cheval arabe.
C'est le lieutenant-colonel Faisal Bahir, le commandant du 2e bataillon de cavalerie à l'académie de police. Nous sommes aujourd'hui ici au festival de la beauté du cheval arabe. On a gagné le 4e et le 5e place pour les jumeaux et le 4e international pour les poulains arabes.
Vous avez participé avec combien de chevaux dans ce championnat?
Il y avait 340 chevaux, mais maintenant pour nous, comme Académie de police, on a participé avec 12 chevaux.
Quels sont les critères selon lesquels on choisit un cheval est beau, oui ou non?
Si on parle du cheval arabe, alors le cheval arabe, le pur sang arabe, c'est l'un des races les plus anciennes. Il a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et l'amélioration des races dans le monde entier. Alors, selon la taille, il est environ de 145 cm de taille jusqu'à 155. Son poids est environ du 380 jusqu'à 450. Il y a 5 points que les jurys peuvent mettre pour savoir qui sera le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors premièrement, c'est la taille. Il y a le type, numéro un, on peut dire le type du cheval arabe. Si l'apparence du cheval, quand il rentre dans le concours, est-ce que c'est un cheval arabe? Le cheval arabe, il doit avoir des petites oreilles, ils sont un peu petits, ils sont ronds. Le visage, comment le mouvement. Alors, selon les 5 points, on peut dire le type, le mouvement, puis la tête et le cou.
Vous voulez dire par mouvement la vitesse?
Non, le mouvement, comment il marche, comment les allures du cheval. Alors, quand il trotte, comment il, en rentrant, en trottant, en galopant par exemple, alors comment il marche? Puis après il y a le corps et la ligne de dos, puis après il y a les pieds, les proportions des pieds, puis la queue. Il y a maintenant 900 écuries ici en Égypte, alors notre écurie à l'Académie de police est le quatrième écurie, alors c'est très ancien, on a commencé depuis 1953. Alors, la beauté du pur sang arabe, on peut parler de la tête. Il a une petite tête, son profil est rectiligne, légèrement court, son front est large, les oreilles sont petites et pointues, l'œil c'est grand et expressif, les naseaux sont larges, il a les ouvertures du nez très larges. Ça, c'est ce qui indique qu'il vit dans les déserts, alors il peut respirer facilement. L'enclure est allongée et rouée, bien arquée. Les vertèbres, il a 22 vertèbres, tandis que les autres chevaux, ils ont 25 vertèbres, sauf la queue. La queue aussi est bien attachée en haut à cause du manque de ces 5 vertèbres. Alors, il peut bien courir. Il a le mouvement entre temps, il est très léger, c'est un cheval très intelligent, toute sa poitrine aussi est musculée, le thorax est large et profond, les membres sont musculeux, dotés d'articulations longues. Le peau est fine et élastique, recouverte de poils très courts.
Comment peut-on savoir si ce cheval est un pur sang arabe ou bien d'une autre race?
On peut distinguer deux points. Point physique du cheval et le point documentaire. Alors, du point documentaire, chaque cheval arabe doit avoir un sou. Sous sa crinière, on trouve un sou. Alors, pour mettre ce sou, on doit faire des analyses génétiques pour la maman et son père, pour savoir que le poulain appartient à cette maman et ce papa. Si c'est juste, alors on met le sceau. Alors le sceau, ça c'est par exemple ici en Égypte, alors on met le E, ça signifie Égypte, l'Égypte. Puis il y a le numéro de l'écurie, puis après on met le numéro de série, puis après c'est la date ou l'année de naissance. C'est documenté, ces numéros sont WAHO. WAHO c'est World Arabian Horse Organization, organisation du cheval arabe mondial. Alors ce sont des numéros, ce sont des symboles, alors, mais on le connaît. Si tu as ces numéros, alors tu peux savoir ce cheval, à qui appartient son maman, la branche de sa famille, tout simplement.
Alors le cheval arabe, c'est un aristocrate. Et l'âne corse, eh bien, il fait son petit bout de chemin. Il y en avait 20 000 en 1930, il n'y a plus que 2 000, il n'y en a plus que 2 000. Eh bien, ces ânes corses, ils sont recensés parce qu'on veut les labelliser en âne corse. Oui, madame, et voilà. Et nous allons être fiers de nos ânes,
oui,
qui étaient le premier signe de richesse en Corse, justement au moment où la campagne avait une activité beaucoup plus importante que maintenant. Alors on va rester en Égypte. Dina nous propose cette semaine, à l'occasion de Mouled El Nabi, la naissance du prophète, donc, que la communauté musulmane célèbre cette année les 11 et 12 décembre 2016. Un des chants de cette fête, le titre Maulay Sali, est interprété par Maher Saïd.
Poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika.
Et nous voilà arrivés à notre agenda culturel. Nous commençons avec le Maroc. Le Festival international du film de Marrakech réunit cette année les artistes et les cinéastes de plusieurs pays. La programmation est riche. 14 films en compétition officielle, 90 productions de 36 nationalités, sans oublier le dernier des films de Walt Disney doublé en arabe, puis les masterclass autour de la thématique des maîtres et des styles.
Alors pour l'Algérie, un prix national du jeune auteur portant le nom du défunt romancier Rachid Mimouni sera créé en 2017 à l'occasion de la relance du colloque international dédié à cet écrivain. L'auteur du Fleuve détourné, La ceinture de l'ogresse, Chronique de Tanger, La malédiction et l'honneur de la tribu, est décédé le 12 février 1995.
Ouverte au mois de juin au musée de Bastia, l'exposition Corsica Genovese, Corse génoise, va se terminer le 17 décembre. Les centaines de visiteurs ont ainsi découvert ou parcouru cette période de l'histoire de la Corse sous domination génoise de 1380 à 1769 à travers des peintures, documents, livres, objets, armes. Prêtée par les musées nationaux de Gênes et des collections privées, une exposition qui remet parfois les pendule à l'heure et démystifie aussi l'histoire vers plus de vérité, à voir donc jusqu'au 17 décembre.
Et puis la romancière tunisienne Fawza Zouhari vient d'être désignée lauréate du prix des 5 continents de la francophonie pour l'année 2016. On la félicite. Le jury de ce prix décerné par l'Organisation internationale de la francophonie s'est réuni le 6 décembre 2016 à Paris pour délibérer avant d'annoncer le nom de la lauréate, dont le dernier roman Le corps de ma mère, édité chez Gallimard, Losfield, Paris et Demeter à Tunis, avait reçu en avril dernier le prix Comar d'Or du roman tunisien d'expression française.
Et les marchés de Noël, il y en a pour tous les goûts en Espagne. Les traditionnels, où l'on peut s'approvisionner en santons et autres éléments pour monter la crèche de Noël, ceux qui proposent aussi des arbustes à décorer, les plus modernes avec des déguisements type carnaval, avant carnaval, les marchés de biscuits et autres douceurs élaborées dans les couvents, les marchés solidaires organisés par les ONG, tous annoncent les fêtes.
Une chanson pour terminer en beauté, Mayada, c'est une chanson algérienne. Elle est signée Souad Massi Kaloui.
خلوني
c'était Souad Massi dans Khalouni ou Laissez-moi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous, Pierre-Louis.
Et Kantara, je vous le rappelle, est le fruit d'une large coopération avec Alger, chaîne 3, Radio Extérieure d'Espagne, chaîne Inter Rabat, Radio Tunis, chaîne internationale, Radio Le Caire et France Bleu RCFM en Corse.
Merci de nous avoir suivis. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter notre émission sur la page Kantara, sur les réseaux sociaux. Merci Pierre-Louis, à la prochaine. Ici à la réalisation, il y avait Wafé Bouzeïda.
Merci Mayada, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir à tous nos auditeurs. Et à la réalisation Abbassia, il y avait Jean-Pierre Brunini. À la semaine prochaine.